simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur les Goligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Alors bonsoir, je sais que c'est un métier, hein, parce que la semaine dernière, j'ai pas réussi à le dire correctement, hein, cette annonce. Alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, on va faire à nouveau un quatrième temps sur le métier de cordiste et sur cette affaire dont on vous avait parlé au cours de ces trois émissions précédentes, à savoir...
Deux émissions.
Oui, oui. C'est pas grave. Sur justement ces accidents mortels du travail qui ont eu lieu sur le site de Bazancourt et sur le site de Crystal Union. Et pour cela, on a Monsieur le Président Louis, comme on l'appelle désormais dans les journaux. Eric qui est avec nous au téléphone. Eric, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Tu nous entends?
Oui, je t'entends.
Ouais, très bien. Bonsoir Eric et merci d'être avec nous. Ben je crois qu'on va entrer tout de suite dans le vif du sujet puisque vendredi on a passé beaucoup de temps ensemble, une audience de 12 heures, de 10 heures pratiquement, pratiquement 10 heures au tribunal de Reims pour justement juger de ce double homicide involontaire qui avait eu lieu en 2012 à Bazancourt. Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu les événements, s'il te plaît?
Les événements qui sont passés au niveau de l'accident.
Ouais.
Donc, ça s'est passé chez Crystal Union à Bazancourt, dans le silo numéro 4, le plus grand silo de l'usine, en fait, qui fait 30 mètres de diamètre et 54 mètres de haut à l'intérieur. 54 mètres de haut, il faut savoir que ça représente un immeuble de 15 étages. Un silo qui est immense, le plus gros silo que moi j'ai jamais vu. Les gars sont rentrés, c'est le premier jour de chantier en fait, c'était le premier jour de chantier. Ils ont fait plus ou moins les formalités pour rentrer dans le silo. Ils sont rentrés dans le silo et au bout de 10 minutes de travail, le sucre a commencé à s'écouler. Et puis il y a deux gars qui ont été pris dedans très vite. Très vite, Arthur a été enseveli. Vincent a commencé à suivre. Il s'est vu partir. Il y a Frédéric qui était là aussi et qui a commencé à partir, mais sur les conseils de Vincent, qui malgré le fait qu'il s'enfonçait dans le sucre, lui a conseillé de couper sa corde et se rattacher sur notre corde, ce qu'il a pu faire in extremis, ce qui l'a sauvé. Et puis il y avait un quatrième cordiste qui n'était pas dans la zone de danger et qui n'a pas été impliqué directement dans l'accident, mais je pense qu'il a été impacté psychologiquement. Et voilà comment ça s'est passé, quoi. Très très vite.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont été aspirés, c'est ça, et recouverts par le sucre qui était déversé dans le silo alors qu'il y avait une intervention.
Alors le cœur du problème, le cœur de l'accident, c'est qu'effectivement, il y avait une trappe qui était ouverte, deux trappes même qui étaient ouvertes, et qui étaient ouvertes à l'endroit où ils étaient en train de travailler, où ils commençaient à travailler. Et ce qui fait que, comme c'est des trappes qui sont dans le sol, c'est des gros gros entonnoirs qui sont dans le sol. En fait, c'est un sablier, le truc, c'est un sablier. Sablier. Le sucre est fluide. Le sucre, il s'écoule très très vite.
Et alors donc ce vendredi, 7 ans après longue instruction, il y avait enfin l'examen des responsabilités devant le tribunal. 7 ans, hein, on peut dire 7 ans pour les familles d'Arthur Bertelli et de Vincent Desquins, parce qu'ils ont quand même des noms et des prénoms et des histoires, c'est cordis, quoi. Ouais. C'est important de rappeler les noms, c'est pas seulement des quantités administratives, et c'est des histoires et des familles et des gens qui étaient là. Donc 7 ans après, on avait l'examen des responsabilités devant le tribunal. Première question, qu'est-ce que toi, t'as, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que toi, t'as pensé du procès en général ?
Alors, d'une manière générale, moi, je divise le procès en deux grandes parties. La première grande partie, avant la petite pause de trois quarts d'heure qui nous a été octroyée, parce que tu le précisais tout à l'heure, le procès a duré de 9h à 21h. C'est quand même extrêmement long. Après, il faut le temps de juger. C'est pas un jugement, il faut le temps de juger les choses et de les juger bien. Une première partie où la cour, c'est-à-dire le président et ses deux assesseurs, ainsi que le procureur, à mon sens, on fait le travail en pointant les responsabilités des prévenus, des quatre prévenus. Ça, c'est une chose. Et ensuite, après la pause, ça a été les plaidoiries des avocats qui ont duré très longtemps. Et bon, là, c'était un petit peu moins réjouissant pour nous, quoi, parce que là, ils ont défendu leurs intérêts et ils les ont défendus en usant d'arguments qui n'étaient pas forcément techniquement valables et qui étaient moralement, je dirais, assez discutables. Voilà, moi, le ressenti que j'en ai eu, quoi. Mais pour la première partie du procès, d'autant plus avec le témoignage de l'inspectrice du travail, qui était assez clair, assez limpide, on a assisté à quelque chose qui, je dirais, sans nous mettre du baume au cœur, nous a quand même réjouis sur la façon dont ça a été fait, parce que les responsabilités ont été quand même mises en lumière, et les deux prévenus, les deux personnes physiques qui étaient là, ont été largement malmenés et incriminés, quoi. Après, ça laisse pas préjuger du verdict, évidemment.
Oui, effectivement. Alors, il y a cette longueur, tu l'as dit, 12 heures en plus. Ça nécessitait pour les familles et pour les parties d'être particulièrement attentifs. Et puis, je pense pas qu'elle aurait voulu, à la justice rémoise, de le décomposer en deux jours, voire en même trois jours. Hein. Mais bon, voilà, c'est tout. Hein. C'est comme ça, c'est le temps judiciaire. Mais c'est vrai que c'est écrasant, quoi. En plus, c'est inconfortable. Mais bon, et tu l'as dit, vraiment, le sentiment la démonstration des responsabilités individuelles et collectives, c'était impitoyable, quoi, dans le sens où individuellement, c'est-à-dire les individus qui étaient là, hein, qui s'appellent Monsieur Mangeon et Monsieur Duval, ont visiblement absolument pas compris ce qui se passait, de quoi ils devaient répondre et quelle était leur responsabilité. Et on se rend compte avec quelle, et grâce, tu l'as dit, au rapport de l'inspectrice du travail qui était là. Heureusement qu'elle était là. Imagine s'il n'y avait pas eu ce travail-là. Visiblement, les individus qui étaient là ne se rendaient absolument pas compte des conditions de danger dans lesquelles ils travaillaient. On a des éléments de base de sécurité qui n'étaient absolument pas respectés.
Bah absolument, oui. Bah, c'est des gens de la direction. C'est des gens qui ne rentrent pas dans les silos. C'est des gens qui ne travaillent pas physiquement sur les sites qu'ils exploitent, qui vraisemblablement ne l'ont jamais fait de toute leur carrière. Donc effectivement, ce qu'ils voient, c'est le boulot qu'il y a à faire, le résultat qui doit être obtenu, mais ils se rendent absolument pas compte des conditions dans lesquelles les gars travaillaient, dans lesquelles nous on travaillait en tant que cordistes, et ça vaut aussi pour d'autres corps de métier, mais moi je parle pour le métier cordiste qui nous intéresse aujourd'hui. Et alors je tiens à dire aussi que leur attitude en tant qu'homme, a été quand même assez pitoyable. Parce que ces gens, ces directeurs, qui quand ils sont dans leurs usines et qu'ils ont le beau rôle et qu'ils ont la maîtrise du langage, les codes du langage entrepreneurial, c'est les cadors chez eux, c'est les big boss, et nous, en tant qu'ouvriers, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas grand-chose, voire rien du tout. On en a eu la preuve avec cet accident. Et là, du fait de se retrouver en face d'une autorité qui était supérieure à la leur face à la cour, ils ont eu une attitude complètement pitoyable en rejetant la responsabilité qui est la leur l'un sur l'autre. Quoi. On sentait bien que c'est... un avocat l'a dit, et moi c'est ce que j'ai ressenti également, je l'avais dit avant d'entendre l'avocat le dire, c'était c'est lui, c'est pas moi. Quoi. On aurait dit des gamins de 6e dans une cour de récré quand ils se sont fait choper à fumer une clope dans les chiottes à la récré, et c'est pas moi, c'est lui. C'était exactement ça. Ça a été leur défense. Tout le long, il n'y a pas eu une parole de dignité, de responsabilité face au drame qui s'est passé. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça complètement fou. Complètement fou.
Par contre, les avocats des entreprises, cette fois-ci, ont introduit leur plaidoirie en effectivement... reconnaissant ce que les familles avaient vécu comme horreur. Ça a été bien dit, bien fait. Il faut dire qu'ils avaient intérêt à le faire. C'est évident qu'ils avaient intérêt. Et en plus, alors là, c'était terrible, parce que Cristal Union, ils avaient un avocat qui était une pointure, qui a donc parlé pendant 1h15, je crois 1h45, qui a tout démonté l'entreprise Carrard. Service, ils ont tout foutu sur le dos de Carrard Service en mettant des trucs. Le mec, il avait bien bossé son dossier, en sortant les trucs comme quoi effectivement c'était pas du tout Cristal Union qui était responsable, c'était bien Carrard Service. Si les trappes ont été ouvertes, c'est parce que tout simplement Carrard Service a demandé que ça soit ouvert à un moment donné. Voilà, c'est incroyable d'entendre ça. Il a tout fait aussi, et là aussi, comme l'entreprise d'avant, comme Carrard Service avec l'avocat, il y a eu aussi un truc complètement dégueulasse, c'est plus que ça même, où il introduisait le fait que finalement, si ces cordis étaient morts, c'était aussi de leur faute, ils étaient pas bien attachés, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas trop insisté là-dessus parce que la salle commençait à gronder. C'est évident que ça allait pas passer, mais n'empêche que c'était ça, que dire que c'est pas mon entreprise, c'est l'autre, et puis les cordistes quand même quelque part voilà, ils sont responsables. Voilà, c'était un peu lamentable. Alors bien évidemment, faut savoir que ces deux entreprises là contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces deux pointures, Cristal Union, on le sait, puisque c'est les sucres d'Adi, etc. Je me suis renseigné sur Carrard Service. Carrard Service est une grosse boîte, malgré ce qu'on pourrait en dire. Il y a 3500 à 3600 travailleurs qui y bossent. Il y a un chiffre d'affaires de 2017, je crois, de 92 millions d'euros.
Exactement.
Avec un bénéfice de plus de 3 millions d'euros. Alors quand on demande 100 000 euros d'amende de par la justice, c'est pas ça, surtout qu'ils ont en plus dans les assurances, c'est pas ça qui va changer grand chose à cette entreprise. Alors cette entreprise, alors moi ça me disait quelque chose, je suis depuis 68, donc, et effectivement Carrard s'est constitué en 1969 par un certain Daniel Carrard, évidemment. Au départ, c'était vraiment un truc artisanal. C'était laveur de carreaux. Ils embauchaient surtout des Algériens qu'il allait chercher sur le foyer d'immigrés. On allait chercher les ouvriers de chez Carrard dans un minibus pour aller faire les carreaux ailleurs, à droite ou à gauche. Cette entreprise s'est développée. En 1995, c'était terminé au niveau de Daniel Carrard, c'était terminé pour la famille. Elle est passée sous pavillon néerlandais. C'était le filiale du groupe Webego des Pays-Bas. Ensuite, il y a eu des problèmes en 2012. Ils ont été placés en redressement judiciaire. Carrard a été placé en redressement judiciaire et elle a été rachetée par une multinationale d'origine française, Atalian. qui est donc, c'est une filiale d'Atalian depuis 2013. Alors Atalian, c'est un gros truc, hein. C'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 125 000 travailleurs dans le monde. Voilà, c'est Carrare, il ne faut pas croire, pour nous et moi, ça nous fait penser à une petite boîte de rien du tout. C'est vraiment un gros truc, quoi.
Tu connaissais l'histoire et la réputation de l'entreprise Carrare, parce que c'est une société qui a très, très, très mauvaise réputation sur la ville.
Moi, je ne connaissais pas. Je me suis renseigné un petit peu quand, effectivement, il y a eu ces accidents et que j'ai su que c'était des gens de chez Carrare qui avaient eu ces accidents. Il y avait eu un accident auparavant chez Vivestia. Et ce qu'il faut dire à ce sujet-là, c'est que l'avocat de Carrare, et je crois même pendant l'instruction, Carrare, par le biais de son avocat, a fait toutes les démarches possibles et imaginables pour échapper à ses responsabilités, justement en arguant du fait qu'ils avaient été rachetés et que Carrare, entre guillemets, le Carrare de l'époque n'existe plus, donc on ne pouvait pas poursuivre cette entreprise qui existe à l'époque et qui n'existe plus maintenant,
c'est
et qui
ça,
a fait l'objet d'une interruption de séance en début d'audience.
On a en face de nous une multinationale.
Ben, carrément, ben,
c'est en multinationale.
Deux multinationales. C'est vrai que tu soulignes le fait, ça paraît une petite société
oui,
vis-à-vis
c'est
de
ça.
L'Union.
C'est ça, alors que c'est pas vrai.
Alors que c'est pas vrai, effectivement... Cristal Union, c'est 2,5 milliards pardon, de chiffre d'affaires et 133 millions d'euros de bénéfices nets. C'est vrai que quand tu mets en balance Carrare qui fait 92 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3 millions de bénéfices, ça paraît être une petite société, mais pas du tout. Effectivement, c'est une grosse société. Une grosse société de nettoyage qui employait par ailleurs des cordistes. Et j'ai envie de te dire que par rapport à l'entreprise de cordes qui emploie des cordistes de taille moyenne en France, c'est énorme. c'est complètement énorme. On est loin de l'entreprise typique de cordistes, avec même plus de 15 cordistes, c'est déjà une belle boîte de cordes, même si par ailleurs ils emploient quand même un gros volant d'intérimaires pour faire leur chantier, ça reste une grosse boîte comme tu l'as souligné, c'est vrai, c'est important de le souligner. Oui.
Et ça résonne d'autant plus fortement quand Denis annonce les chiffres, quand on sait de quoi est majoritairement constituer le travail de Carrare, puisqu'on va encore l'appeler comme ça, Carrare, qui, comme j'ai dit, a extrêmement mauvaise réputation. Pour ceux qui bossent chez Carrare, c'est conçu comme une punition, quoi. Tu l'as dit, on vient te chercher chez toi, on fait le tour des foyers, on fait le tour de l'armée du salut, les tafs dans les grandes surfaces très tôt le matin à la brosse, c'est les conduites de friterie industrielle ou semi-industrielle avec la graisse et tout ça. Enfin, vraiment des sales tafs. Et ces gens-là font des bénéfices en centaines de millions d'euros. On voit comment est fait le boulot, quoi. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais aussi par rapport à l'attitude des individus. Quelle veulerie, quoi. Quelle image de classe ça donnait, parce qu'on avait l'impression de gosse qui s'était en train de se faire taper sur les doigts. Non, je sais pas, c'est pas moi. Pas un seul mot, pas une seule parole en direction des familles des victimes, quoi.
Et je voulais justement, quand tu l'as dit, je voulais réagir à ça. Alors autant les personnes morales qui étaient là et qui sont directement impliquées se sont rejetées la responsabilité l'un sur l'autre en ne rejetant pas non plus vraiment la responsabilité sur les cordistes. Mais parce que derrière eux, la salle était pleine de gens, des proches, des familles. Des proches et des familles d'Arthur et Vincent, et puis par ailleurs, plein de cordistes qui étaient là en soutien. Alors j'imagine que ça, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est important d'être soutenu, c'est que ils avaient dans le dos une masse hostile, ça c'est clair et net. En revanche, les avocats
des entreprises.
Des deux entreprises en tant que personnes morales, alors d'une part parce que c'est leur boulot et qu'ils ne se laissent pas influencer par ça, et que de toute façon... c'est des avocats parisiens qui, le soir même, étaient rentrés chez eux tranquillement pour boire l'apéro. Eux, j'ai envie de te dire qu'ils n'en avaient pas grand-chose à foutre. Des familles et des cordistes qui étaient derrière, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et eux, ils ont clairement rejeté la responsabilité sur les cordistes, sur l'avocat de Cristal Union, sur l'entreprise Carrare, évidemment, mais également sur les cordistes, en insistant en plus sur des points techniques qui sont complètement faux.
complètement,
problème.
Ouais, complètement. Mmh. Mais c'est là que tu t'aperçois qu'il y a une dimension de classe incroyable dans ce procès. Quand tu t'entends ces avocats des grosses entreprises, tu te dis, mais putain, mais quel mépris. Quel mépris des travailleurs.
C'est un mépris total. Et quand tu disais tout à l'heure, quand tu soulignais qu'ils avaient commencé leur plaidoirie en évoquant la dignité des familles, etc., là, tu as bien compris que c'était pour mieux attaquer après. Quoi.
Bien sûr,
évidemment,
bien
ils ne pouvaient pas le faire de but en blanc.
Ils ne pouvaient pas le faire de but en blanc.
Là, ils sont passés pour des pourris complets.
Ils sont intelligents. Hein.
Ah, non, ouais. En passant un petit quart d'heure à nous brosser dans le sens du poil, j'ai envie de te dire, c'était pour mieux passer l'heure suivante à nous étrier. Quoi. Ça a été clair et net.
Il y a une vraie déférence, comme on peut l'avoir dans ces milieux-là. Quoi. Ce qui va parfois, pas toujours, mais avec l'art de l'éloquence. Mais de toute façon, même s'il racontait des horreurs et des conneries sur les manipulations, en essayant d'amener ça sur un terrain très technique, le but du jeu était de créer un petit doute. D'instiguer le doute dans l'esprit de la présidence et du tribunal. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'a, je ne sais pas si toi ça t'a frappé, mais on a parlé beaucoup au cours de cette journée de travail, de process de travail, de travailleurs, de chiffres, de multinationales, etc. Mais finalement, cette question du travail et des travailleurs, de qui bosse et qui fait quoi, elle a été absente. J'ai été surpris, moi, de pas voir d'images concrètes et réelles de ce que ça pouvait... Alors peut-être qu'elle était dans le dossier, mais de voir ce que ça pouvait être le travail dans un silo, quoi. Tu vois, pour que la cour, l'audience et les gens qui viennent... Là, il y avait beaucoup de cordistes, donc les gens savaient de quoi on parlait. Mais se rendre compte des conditions dans lesquelles ça s'était déroulé, véritablement, quoi.
Exactement. Bah, j'ai envie de te dire que c'est pas l'intérêt de tout le monde de décrire ces conditions-là, quoi. Parce qu'au-delà de ce qui est arrivé... précisément à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est vrai que de toute façon, pour des chantiers sur lesquels il n'arrive pas de problème ou alors simplement que des petits incidents ou des presque accidents, ces conditions-là, c'est le quotidien des cordistes. Ça, c'est clair et net. Après, effectivement, étant donné les chefs d'inculpation, ça s'est focalisé sur, comme tu le dis très bien, sur des points techniques assez précis, des points techniques et des points de règlement au niveau des plans de prévention, etc., qui peuvent paraître, je dirais, complètement annexes et assez dérisoires par rapport au contexte de travail qui n'a pas été tellement rappelé au final. Et la chose que je voudrais ajouter également, c'est qu'il a manqué, dans ce procès, il a manqué une vraie expertise technique. Mmh. Parce que là, effectivement, même si tu sentais que les magistrats et les avocats avaient quand même travaillé le sujet,
ouais.
Tu sens bien, moi j'ai bien senti en tant qu'ouvrier cordiste, et j'ai travaillé 2 ans et demi comme cordiste, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un formateur, il y en avait dans la salle, il y avait des formateurs de très haut niveau dans la salle, des formateurs de jury, et eux, ils étaient complètement abasourdis par ce qu'ils ont entendu, parce que ça les a heurtés, quoi. Autant d'imprécisions, autant de contre-vérités, ça les a choqués. Mais par ailleurs, il n'y avait pas une parole qui venait à l'encontre de ce qui a été dit. Ce qui a manqué véritablement, à mon sens, dans ce procès, c'était une expertise technique. Il aurait fallu citer à comparaître un technicien expert, un formateur avec 20 ans de métier qui a formé 500 bonhommes sur le terrain, qui a bossé sur le terrain et qui avait fait des silos, et moi j'en connais, mon formateur, il a travaillé dans ce silo-là, et on l'a vu ce week-end, il est venu au rassemblement qu'on avait organisé le week-end suivant le procès, et si ce gars-là avait été à la barre pour expliquer à la cour et au public non averti ce qu'il nous a dit samedi, les choses auraient été beaucoup plus limpides. Et il n'y aurait pas eu ce doute instillé après par les avocats. Parce ouais. que là, j'ai envie de te dire qu'ils partaient vainqueurs d'avance, puisque la cour n'ayant pas l'expertise technique, ils ont pu, eux, avec les éléments qu'ils avaient, qui étaient pas forcément les bons, pas forcément exacts, ils ont pu influencer la cour à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le comportement de l'avocat de Cristal Union, et qui martelait, qui a martelé à maintes reprises, je ne sais pas combien de fois il l'a dit, mais c'était énorme, et tout le monde l'a relevé, qui martelait qu'il avait commandé des gars pour travailler corde tendue, il l'a bien insisté là-dessus, et qu'un expert formateur cordiste serait passé à la barre, il aurait démonté cet argument en 5 minutes, même pas en 5 minutes. On aurait... C'est un argument qui n'est pas tenable. Techniquement, pour quelqu'un qui est expert, c'est très facile à démontrer que corde tendue, les gars seraient partis, c'est sûr et certain.
C'est pas le problème de l'attitude des cordistes. C'est pas le manque d'attention et de prudence des cordistes qui a provoqué l'accident. C'est le fait qu'il ait été aspiré et qu'il y a eu ce sucre qui soit arrivé, quoi. Ce n'est pas, le process de travail des cordistes. C'est pas sur eux que tient la responsabilité. C'est pas s'ils avaient eu tel autre machin ou une corde tendue ou une corde pas tendue. Mais on l'a dit tout à l'heure, l'objectif de ce bavard-là, c'était d'instiguer le doute, quoi. En tous les cas, de dégonfler un petit peu la responsabilité des donneurs d'ordre, quoi.
Michel Mangillon l'a avoué lui-même. Les gars, jusqu'au matin même de l'intervention, Cristalignon soutirait du sucre. Quand il soutire du sucre, ça veut dire qu'il est fluide, le sucre. Mmh. Or, un cordiste, quand on l'envoie dans un silo, c'est pour quoi faire ? C'est pour colmater du sucre qui est durci.
Ouais.
Je ne vois pas l'intérêt d'envoyer des gars dans un silo qui continue à couler, puisque le sucre, il coule. Il n'y a pas besoin de qui que ce soit pour le décolmater. Et donc, à partir du moment où le sucre coulait, les gars n'avaient rien à faire là-dedans.
Oui, puis,
et donc, le problème, il s'arrête là. Les gars, ils avaient rien à faire là-dedans. Ils y étaient. Et en plus, il y avait des trappes ouvertes. Donc, après, l'histoire de corps tendu, etc., les bidouilles, les machins, tout ce que tu veux, c'est un point de détail. Les gars, j'ai envie de te dire, le point sur lequel on aurait dû débattre, c'est les gars n'avaient rien à faire dans le silo. À partir de là, point barre. Ils sont pas dans le silo, il se passe rien. Ils sont dans le silo, les mecs, ils se font ensevelir, quoi. Voilà, c'est tout, point.
Et puis, parce que c'est vrai, tu l'as dit quand même, c'est important de considérer que tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour fabriquer du sucre, quoi. Des petits bouts de sucre qu'on met dans le café, dans la confiture et tout ça. Et c'est quelque part, tu le décris bien dans l'ouvrage, dans l'excellent ouvrage que tu as publié et qu'on peut retrouver sur le site des éditions du commun. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière justement toutes ces marchandises qu'on manipule au quotidien? Alors, le sucre, on est dans une région sucrière parce qu'il y a de la betterave. Donc, on voit encore comment c'est fait. Et on sait que derrière chaque chose, il y a du travail. Nos téléphones portables, on se doute bien que c'est pas fabriqué dans des conditions géniales, que c'est fabriqué par des gosses qui vont chercher du coltan dans les mines. Mais comme c'est très loin, on ne le voit pas, quoi. C'est encore un peu supportable, quoi. Et alors, derrière tout ça, il y a des hommes. Et puis, il y a effectivement les peines qui ont été demandées. Alors là, nous, on n'est pas pour l'incarcération et l'emprisonnement des gens. Hein. On n'est pas en train de dire que la solution, c'est de mettre en prison les gens. Mais quand on a un discours comme celui du procureur de la République, qui est assez sévère quand même, et quand on voit ce qu'il demande, il y a quand même un écart assez incroyable, quoi. Alors, on regarde, Denis, tu peux nous rappeler...
Oui, alors pour la SAS Carrare Service, c'est 100 000 euros d'amende qui sont demandés, donc. Un placement sous surveillance judiciaire pendant 3 ans. La publication de la condamnation et l'affichage de la décision de justice à l'entrée de la boîte à Tessy. Son chef d'établissement, qui lui m'est apparu comme étant le lampiste, le fameux David Duval... 1 an d'emprisonnement entièrement assorti du sursis et 15 000 euros d'amende. Alors je disais lampiste parce que ce mec-là, son patron réel, lui fait signer un papier, lui signe un papier comme quoi il donne tout pouvoir à ce mec-là. Et donc ce mec-là, il doit assumer les emmerdes après. Même si je ne sais pas si c'est un salaud sur le terrain, je ne sais pas du tout. Mais il faut dire, je pense que c'était à Lampis, quoi. C'est pas lui qui devait être là. C'est effectivement la direction réelle de Carrare. Ensuite, il y a Cristal Union. Cristal Union, c'est pareil que Carrare Service. C'est 100 000 euros d'amende, un placement sous surveillance judiciaire pendant 2 ans, la publication de la condamnation, effectivement, à l'entrée de la boîte à Bazancourt. Et puis, il y a le chef d'établissement, le Mangion, 8 mois d'emprisonnement, entièrement assorti du sursis et 15 000 euros d'amende. Voilà.
Comment t'as fait réagir, toi, et est-ce que tu sais, est-ce que vous avez pu en discuter avec la famille, avec Fanny
Évidemment, quand on est de ce côté de la barrière, on peut facilement se dire que c'est pas des peines qui sont hyper lourdes, bah, surtout financièrement, quoi. Après, moi, j'ai envie de te dire que tout ça, c'est lié au chef d'inculpation. Il y a des grilles tarifaires, j'ai envie de dire.
C'est
pas reconnu comme un crime, etc., bah, effectivement, tu peux pas mettre les mecs en cabane pendant 15 ans. Après, moi, ce qui me paraît intéressant, et la chose sur laquelle on n'avait pas compté, c'est cette mise sous surveillance, effectivement.
C'est ça, ça peut être intéressant. Voilà.
Ça, par contre, c'est le seul truc. Après, bon, qu'ils prennent pas. Effectivement, pour eux, ça sera un dolore parce que c'est du sursis, parce que les sommes, elles sont dérisoires par rapport aux bénéfices qu'ils font. Après, la chose qui me paraît intéressant, c'est ce contrôle, justement.
C'est ce contrôle.
Ce genre de mise sous tutelle des plans de prévention et de la mise en sécurité des usines qui, là, peut améliorer, faire avoir une prise de conscience sur des dirigeants de ces boîtes. Sur le déroulement des chantiers, j'ai envie de te dire. Voilà. Et pour revenir sur David Duval, effectivement, là, on clairement fait payer un lampiste. Parce que quand le procureur lui demande combien il était payé, le mec, il se répond 3000 balles, quoi. Le mec, pour 3000 balles, il signe une délégation de pouvoir.
C'est ça.
Ouais. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et qui le rend pénalement responsable de tout ce qui peut se passer
dans une multinationale.
C'est incroyable.
Brutti. Ouais. Et en plus, le mec, il doit pas comprendre, de toute façon. Hein. Malheureusement, il n'est pas devenu anticapitaliste pour ça.
Ouais, clairement, ouais, clairement. Et du côté de Cristal Union, c'est pareil. Bon, j'imagine que le niveau des salaires, il n'est pas le même, et des responsabilités, il n'est pas le même. De toute façon, on voit, quand tu vois les deux personnages... Mangillon et Duval, tu vois très bien qu'ils ne sont pas au même niveau. Mais j'ai envie de te dire que le scandale est le même, puisque même s'il était bien payé, même s'il avait des responsabilités, une belle bagnole, Michel Mangillon ne reste qu'un directeur d'usine. Quand Cristal Union fait son assemblée générale d'actionnaires, enfin de contributeurs, parce que c'est une coopérative, tu comprends, c'est pas des méchants, c'est 40, une coopérative, donc c'est des coopérateurs. Michel Mangillon, il n'est pas sur le podium. Il fait pas partie des big boss. Il fait partie des sous-fifres par rapport à ces mecs-là. Et Olivier de Bohan, qui est issu, qui est un héritier de la famille de Bohan, de la dynastie de Bohan, eh ben le gars, j'ai envie de te dire que lui est tranquille. Le soir même, il buvait l'apéro comme si de rien n'était. Il dort sur ses deux oreilles. Lui, il sera jamais inquiété. Il fait signer des délégations de pouvoir à ses directeurs d'usine. Et puis le nom de Bohan n'est jamais associé à ce genre de scandale, c'est pas un scandale, à ce genre de procès, par exemple. Voilà, c'est ça, par contre, ça, c'est un scandale, par contre.
Alors, je pense aussi qu'il va falloir, il y aura, j'espère, un deuxième procès pour le cordiste qui est décédé en 2017.
Ouais.
Là, je crois, c'est encore Cristal Union. Là, je crois que ça peut, j'espère que ça va monter en puissance au niveau de l'attaque, quoi, par rapport à cette boîte.
Oui, j'ai envie de te dire que la récurrence est une circonstance aggravante. Et plus le procès va arriver vite, et plus on aura en mémoire celui qui a déroulé.
Ce qui s'est passé.
C'est sûr que si on juge ça dans 5 ans, le juge, il aura largement eu le temps d'oublier.
Ça ne sera pas le même, de toute façon.
On aura même peut-être changé de juge et de procureur. Et effectivement, ça risque aussi de passer comme une lettre à la poste. J'ai envie de dire aussi que sur le procès qui s'annonce, on ne va pas rester les bras croisés. Comme je t'ai posé une carence tout à l'heure qui était celle du manque d'expertise technique à la barre, nous, dans le collectif qu'on a organisé, notamment pour ce procès qui vient, là, pour le procès de l'accident de Quentin en 2017 chez Cristal, on a forcément l'envie et la volonté d'imposer une parole qui soit vraiment technique en face, pour pas re-entendre ce qu'on a entendu vendredi de la part des avocats des entreprises, quoi.
Ouais. Et effectivement, parce que tu l'as souligné, tu parlais de collectif et de salles remplies de cordistes, ce procès, il a aussi été un moment important pour justement cette communauté de travailleurs cordistes qui est venue non seulement apporter son soutien aux proches et à tous ceux qui pouvaient être concernés par cette histoire, mais qui est aussi venue se manifester au tribunal et poursuivre leur mobilisation en organisant un week-end de discussion. Je te propose de faire une pause et de nous parler de cela dans la seconde partie de l'émission. À tout de suite.
À tout de suite.
Alors, Eric, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que Joël Léandre et Serge Tessotguet ne t'ont pas fait suivre?
Non, pas du tout.
Très bien. Alors donc, nous avions terminé notre avant la pause musicale, nous avons terminé notre discussion en parlant de la démarche collective. Dont on avait un peu abordé le sujet avec Greg il y a quelques semaines, et donc qui a été, on va dire, le premier moment de manifestation collective lors de ce procès. Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler l'objectif et l'origine de la constitution de l'association Cordistes en colère?
Alors l'objectif, il y a plusieurs objectifs qui sont à développer. On développe en gros sur quatre axes, qui est d'une part la défense des victimes d'accidents et des proches d'accidents quand c'est des accidents mortels. C'est aussi la défense des cordistes dans des conflits qui sont liés au travail. C'est intervenir auprès des instances qui gèrent le métier, qui sont toutes d'émanation patronale pour faire évoluer le métier dans le bon sens, pour nous. Et puis c'est aussi la mise en commun d'informations, de témoignages, de savoirs, qu'on fait passer à travers le blog et à travers des publications qu'on a l'intention de diffuser pour apporter des armes techniques, sociales aux cordistes, quoi.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe comme différentes instances de regroupement de ce corps de métier de cette profession?
Ben, pour l'instant, il existait le SFETH, qui est le syndicat français des entreprises de travaux en hauteur, qui est le syndicat patronal des entreprises de cordes, et qui regroupe 37 entreprises sur les 400 recensées en France, mais qui recense les 37 plus grosses entreprises. C'est-à-dire qu'en termes de chiffre d'affaires, ces affaires, on doit approcher les 50% du métier, quoi. Après, tu as le DPMC, qui est... Le bras armé technique, une association, mais qui est le bras armé technique du SFETH, qui met en place tout ce qui est réglementation. Et puis, tu as le CIFORA, qui est également d'émanation, qui est du même côté de la barrière, et qui, lui, s'occupe de gérer tout ce qui concerne la formation. Sinon, de l'autre côté, jusqu'alors, il y avait les cordistes éparpillés, de manière individuelle, géographiquement et puis aussi socialement, puisqu'il n'y a rien qui les relie pour faire pression, pour rétablir le rapport de force. Et par ailleurs, il y avait quelques cordistes syndiqués, CGT, enfin il y en a encore quelques-uns qui sont syndiqués, mais il n'y a pas de section de CGT cordistes. Les quelques cordistes qui sont affiliés à la CGT sont sous l'égide de la CGT intérim.
Ouais. Oui, on l'a dit, hein, on l'avait bien précisé lors de l'émission avec Greg. D'une part, bon, vis-à-vis de ces 9000 personnes qui existeraient en tant que cordistes, et puis sur le fait du rapport au travail qui était particulier, auto-entrepreneur, intérim, CDD, etc., etc., qui en faisait une population fluctuante, changeante, et puis également une culture de métier qui commençait seulement à arriver, puisque c'était auparavant des gens dont le métier de cordiste n'était pas le premier métier. C'est d'abord des gens qui travaillaient dans un autre secteur et les activités de corde étaient, on va dire, des trucs hors saison, quoi. Et donc, aujourd'hui, ce week-end, cette association, elle s'est réunie. De quoi vous avez réussi à discuter au cours de ce week-end?
Ah bon, on a discuté plein de trucs, hein. On a discuté de plein de trucs, je te promets, c'est assez dense. On a développé déjà les quatre axes que je viens de t'évoquer là, en établissant des groupes de travail, parce que alors le problème qu'on a, c'est que on est tous éparpillés géographiquement, tu t'en doutes bien. On n'est pas une association avec comme dans une usine, comme chez Goodyear par exemple, où les 300 gars, ils sont là, ils se voient tous les jours, ils peuvent se réunir et faire ce qu'ils ont à faire et dire ce qu'ils ont à dire. Nous, comme on est éparpillés, il faut trouver des moyens pour avancer, tout en sachant qu'on va pas se voir tous les 4 matins parce que on va pas faire 800 bornes pour aller se voir tous les 15 jours, quoi. Donc on a développé ces axes-là. On en a développé d'autres aussi qui consistent à s'armer juridiquement, par exemple, qui consiste à aller prendre contact avec les familles des autres victimes, parce que malheureusement, il n'y a pas que les trois dont on parle aujourd'hui. On a défini, on s'est donné des rendez-vous dans l'année pour des événements, pour des rassemblements, participer à des événements qui vont se dérouler dans l'année. Donc ça nous laisse augurer pas mal de boulot à venir, quoi.
Il faut rappeler que dans ce genre de corps de métier, c'est malheureusement souvent les employeurs, les patrons, pour employer des mots old school, les patrons qui définissent les normes, notamment par exemple à l'intérieur de recommandations, lors de l'assurance maladie, etc. Et qu'en général, la loi, en tous les cas le code du travail et la loi du travail, elle est très 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 en retard quoi, dans l'encadrement. Hein. Sur les travaux en hauteur, il aura fallu attendre 2006 pour abroger les anciens textes qui étaient en vigueur. Pareil, voilà, pour les recommandations qui sont utilisées, quoi. Donc c'est clair que s'il n'y a pas d'organisation de la part des premiers concernés, il n'y aura rien du tout, quoi.
Ah ben clairement, le métier de cordiste, c'est à peine s'il existe, puisque là on est rattaché à la convention collective du bâtiment, ça c'était décidé par les patrons pour des raisons qui leur sont propres et qui doivent les avantager. On n'a pas de convention collective en tant que telle. Et donc, concernant l'accidentologie, il n'y a pas de statistiques officielles, si tu veux. Moi, quand je fais le recensement des morts dont je viens de te parler, là, et depuis 2012, on en est à 8. On en est à 8 pour 8000 cordistes. C'est-à-dire que la liste n'est même peut-être pas exhaustive. Parce que ça, c'est des infos qu'on arrive à récupérer par le bouche à oreille, et Dieu sait que ce n'est pas forcément évident de les récupérer, vu l'éparpillement du métier, quoi. Et donc, en 7 ans, 8 morts sur 8000 cordistes, tu fais un comparatif avec l'éducation nationale qui emploie 1 million de salariés, ça équivaut, dans le même laps de temps, à 1000 morts dans l'éducation nationale. Tout simplement. Alors, je sais bien que les chiffres parlent, mais ne crient pas. Mais quand même, quoi, le comparatif est quand même assez frappant. Hein.
Oui, et puis en plus, tu ne parles pas du tout de tous les accidents qui sont invalidants, etc. etc. quoi, hein. C'est 8 morts, quoi. C'est-à-dire,
je te parle des morts. Ouais, des morts, sachant que la liste est peut-être pas exhaustive. Alors là, effectivement, on ne parle pas des accidents. Ouais. Les accidents, c'est pareil. On n'est pas recensé en tant qu'accidenté cordiste. Affilié à une convention qui n'est pas la nôtre propre. Et une anecdote, quand j'ai commencé à appeler des anciens collègues ou des gars que je connaissais pour essayer de les amener à venir ce week-end sur le procès puis sur le rassemblement, au bout de 5 coups de fil, j'avais déjà eu connaissance de 4 accidents qui étaient arrivés très récemment. Et pas des accidents forcément bénins, bon, pas d'une gravité extrême, mais quand même, pour des gens qui vont garder des séquelles, ça clairement. Et là, sur 5 coups de fil, quoi. 5 coups de fil, j'apprends qu'il y a eu 4 accidents tout récemment. Et là, dans le coin, dans le nord de la France, puisque moi j'ai bossé pour une entreprise qui était basée dans le Pas-de-Calais, donc mes anciens collègues, ils sont là dans le coin. C'est pas, j'ai pas appelé 36 000 cordistes à travers la France encore. Hein.
Oui, en plus dans des conditions, parce que on peut imaginer que les auditeurs se fabriquent une image du cordiste en t-shirt qui va laver les vitrines ou les vitres des grands immeubles de la Défense, tu vois, le corté. Non, c'est aller racler et casser du sucre à la pioche dans un silo, quoi.
Bien sûr, même pire. Là, dans le gars que j'ai appelé, il y a un gars à qui c'est arrivé. Je ne savais pas du tout. Il est descendu dans une cuve où il y avait, où il devait y avoir, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus exactement les produits, enfin il devait y avoir un type de produit bien précis, donc il y avait une procédure et il avait des équipements de protection qui étaient adaptés à ce produit. Et quand il est arrivé dans le fond, il s'est fait brûler les jambes parce que le produit qui était déclaré sur les papiers, c'était pas le bon. Et au contact de l'eau, c'était de la soude, c'est devenu un truc qui lui a brûlé les jambes. Et d'ailleurs, il était là samedi, il nous a fait voir, il est marqué à vie. Il est toujours en bataille avec la médecine du travail pour pas lâcher l'affaire, pour essayer de se faire reconnaître, parce que donc là le gars il descend dans une cuve où il y a de la soude, où il ressort brûlé quoi. J'en appelle un autre avec qui j'ai bossé, que je connais bien, en lui demandant s'il vient. Et le gars me dit qu'il était dans une cuve vide, enfin dans un genre de silo en ferraille vide, et il s'est ramassé avec l'électricité statique, il s'est ramassé une boule de feu, tu vois. Il a échappé à lui, quand même. Il est resté, il a pas de séquelles apparentes, il est resté aveuglé un bon moment, il s'est fait quand même secourir relativement vite par son binôme, mais quand il est sorti de là, il voyait plus clair, et l'artiste a recouvré la vue que quelques... un bon moment après, quoi. Donc j'imagine déjà le choc traumatique quand tu vois plus clair. Est-ce que si ça dure ne serait-ce que 10 minutes, tu te demandes si tu vas retrouver la vue quand même. C'est fou. Et là, c'est dans ces conditions-là. Alors c'est vrai, quand tu dis les gars, quand on présente le métier de cordiste, les gars sur les falaises en t-shirt, sur la tour Eiffel.
C'est ça.
Là, oui, j'ai envie de te dire que c'est un truc à la cool, quoi. Mais il faut savoir que. Il y a quand même une bonne proportion de gars qui descendent dans des endroits comme ça. Ouais. Et c'est rien que le fait de mettre des bonhommes dans un endroit comme ça, c'est déjà un danger. C'est,
ouais.
Dans les endroits confinés, les dangers s'additionnent les uns aux autres. On est exposé à des risques, mais simultanément, quoi. C'est pas ça ou ça ou ça. C'est le risque, c'est le confinement, c'est le risque d'asphyxie, d'ensevissement, d'inflammation, d'explosion. Plus ensuite les conditions de travail, quand tu bosses dans le noir à la frontale, c'est pas comme si tu bossais dehors en plein soleil. Et le stress aussi de savoir que quand tu descends dans une cuve et que t'as pas de réchappe en bas pour sortir, qu'il t'arrive quelque chose, il faut qu'on te tire jusqu'en haut pour te sortir. Et une fois que t'es en haut du silo qui fait 20 ou 30 mètres, si t'es gravement blessé, il faut encore te redescendre pour t'emmener. Tu vois, le truc, c'est. T'as les risques physiques, mais t'as l'appréhension psychologique du truc, quoi. Surtout quand tu sais qu'il y a des accidents qui sont arrivés.
Pour un salaire minimum, incroyable d'ailleurs.
Ouais. Oui, alors là, ça aussi...
12, alors, c'est ça, ouais.
Combien ?
12, 11, 12.
Ah, non, le mec qui est payé 12 euros et...
Il est bien payé, 10,50.
Brut.
Ah, oui, brut, mais moi j'ai... Les gars aujourd'hui qui rentrent au SMIC. Et c'est les gars qui bossent dans les conditions les pires qui sont les moins payés. Un peu comme dans les autres corps de métier. Tu parlais du ménage tout à l'heure. C'est effectivement les mecs qui font les boulots les plus ingrats qui sont les moins payés. Bah, chez les cordistes, c'est pareil, quoi. Si le gars, il n'a pas de spécialité, qui ne fait pas valoir vraiment un métier qu'il peut exercer sur corde, on a besoin de chair à silo, et puis on envoie les gars dans les silos. Et puis effectivement, on les paye pas cher. Hein. Moi, les gars, aujourd'hui, moi j'ai commencé à... En 2015, j'ai fini à mi-2017, j'ai commencé à 10,50 €.
Ouais.
Non, j'ai commencé à 10 euros, pardon, et j'ai fini à 11,77 €.
Privilégié.
Pour te dire, quoi. C'est pour ça que quand tu me dis 12 euros, le gars qui a payé 12 euros, bon, il y en a qui sont payés 12 euros et plus, hein, je conteste pas ça, mais pour aller faire ces boulots-là, les mecs qui débutent, ils débutent pas à 15 balles de l'heure, ils débutent à 10, 11, 10, 50. Après, ça dépend des entreprises. Mais
oui, puis il faut avoir un sacré pouvoir de négociation pour pouvoir un peu imposer un tarif horaire comme ça.
Il n'y a aucun pouvoir de négociation qui fait évoluer le salaire. Il n'y a que le pouvoir de compétence.
Voilà.
Moi, effectivement, j'ai vu des gars qui... Je dis pas qu'ils imposaient leur salaire, mais des gars qui étaient hyper compétents dans tout le domaine, qui avaient du métier. Et là, c'est un gars, quoi. C'est des gars qui avaient 15 ans de métier... qui était capable de faire de la charpente, de la couverture, de la soudure, de l'oxycoupage. C'est quand même des gars qui avaient un bagage, quoi. Si tu fais pas valoir ça, ton salaire, il n'y a rien à négocier. C'est quasiment... Après, on va te lâcher du 50 centimes, 1 euro si on a besoin de toi. En te faisant croire... effectivement il y a de l'offre et que si toi tu veux pas bosser pour 10 balles, il y en a un autre qui va bosser pour 10 balles et puis on te dit voilà, tant pis, tu restes chez toi, c'est comme ça que ça se passe.
Mais ça aussi c'est un des objectifs de l'asso, de bien faire passer, de faire comprendre aux cordistes que tout seul c'est déjà pas simple, c'est pas facile. Alors à plusieurs déjà on est un tout petit peu moins dans la merde et on peut déjà créer un peu de solidarité et se bagarrer. Ça, c'est quelque chose, parce que c'est vrai que moi, d'une petite expérience en travaillant en hauteur dans les échafaudages, ce type de métier Bon, voilà, en plus, ce type de discours n'est pas forcément... Comment il est reçu d'ailleurs dans le milieu des cordistes? Parce que c'est peut-être pas un milieu ou une culture qui est perméable à ce genre de thème, d'organisation, de vouloir se bagarrer, etc. etc.
Bah, je dirais que c'est un métier qui emploie beaucoup de jeunes. Quand je dis de jeunes, de très jeunes. Moi, il y a beaucoup de gars avec qui je bossais qui avaient 20, 22, 23, 25. Un gars, quand je bossais avec des gars de 30 ans, c'est déjà des gars qui avaient de la bouteille, quoi. Mmh. Et donc, j'ai rien contre les jeunes, hein, mais forcément, évidemment qu'ils ont, ils n'ont pas forcément accumulé autant de bagages, de manière générale, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas forcément accumulé un bagage, relatif aux problématiques du travail suffisant pour faire valoir certaines choses. Et l'organisation syndicale, effectivement, il y a beaucoup de gars à qui ça parle pas, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gars à qui ça parle pas et qui s'imaginent pas que... mais ça part d'une culture qu'ils n'ont pas. Ils s'imaginent pas que tout seuls, ils vont pas pouvoir négocier parce qu'ils sont pas du bon côté de la barrière. Le rapport de force n'est pas en leur faveur. Quand tu es salarié d'un patron... Et toi, tu le sais, forcément, mm-hmm. mais tu es subordonné à ton patron. Quand tu vas bosser, tu choisis rien. Qu'est-ce que tu choisis quand tu signes un contrat de travail, à part le fait de le signer? Tu choisis pas l'endroit où tu vas bosser, tu choisis pas les horaires que tu vas faire, tu choisis pas l'heure que tu vas commencer, tu choisis pas ton salaire, tu choisis rien. On te propose un truc, tu signes pas. Individuellement, on peut rien choisir. Effectivement, cette problématique des salaires... Individuellement, à part le gars qui a un peu de compétences et puis le gars qui a un peu de bagou et qui va menacer de retourner le bureau du chef de l'agence d'intérim, il va obtenir 50 centimes et c'est tout, quoi. Mais une avancée significative des salaires, ça passe par une grille des salaires établie et qui sera respectée. Et c'est pour ça qu'on veut aussi intervenir en amont auprès des instances qui régissent le métier pour en arriver là. Alors ça sera pas demain matin, forcément, mais le but du jeu, c'est ça, quoi. Parce que à partir du moment où le SMIC il est à 10 balles, il vient de passer à 10 balles, eh ben c'est la seule barrière qui empêche de descendre en dessous, quoi. Mmh. J'imagine bien que... Mais ça, il faut le faire entendre aux gars. Aujourd'hui, tu supprimes le SMIC, les mecs, ils vont se mettre la forme en poigne pour aller bosser. Et vu qu'il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays, ou même peut-être plus, les mecs, ils vont aller bosser pour 6, 5, 4 balles, quoi. Ça se voit ailleurs en Europe, hein. Donc, si collectivement on n'arrive pas à se mettre des salaires planchers en fonction des compétences, en fonction des années d'expérience, il se passera tout et n'importe quoi, parce que le cordiste, puis quand il va arriver, en tant que subordonné en face de sa boîte d'intérim ou en face de l'employé, de l'entreprise qui l'emploie, il pourra rien, certain.
Eric, malheureusement, on va être obligé d'arrêter là, parce qu'on n'a qu'une heure. En tous les cas, merci beaucoup. On mettra sur notre site toutes les coordonnées de l'association et toutes les informations dont vous aurez besoin si vous êtes intéressé pour rejoindre cette association et que vous intéressez à la dynamique qu'a présenté Eric. Eric, ne quitte pas, je te reprends en antenne et je laisse la parole à notre speakerine préférée.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était Grégor, chaque semaine, sur l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Une radio à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.